Bonjour à tous et à toutes, à toutes et à tous. On respecte les deux comme ça. Je suis très, très contente de recevoir à nouveau, mais vous le savez pas, le collège de Cognat, donc classe de 3e. Et toujours à féliciter en même temps les enseignants investis qui essayent de transmettre leur passion de la lecture et qui réussissent, puisque vu la qualité de vos interventions, aucun doute est fait. Voilà, je leur donne d'office une super bonne note à vous aussi. Voilà, donc on ne va pas perdre de temps. Donc le festival dans son ensemble est heureux de vous rencontrer. On vous retrouvera peut-être aussi plus tard en tant que membre de l'association Lecture Plurielle pour partager à nouveau le goût de la lecture que vous avez récolté là, semé, et peut-être que c'est va éclore plus tard. Voilà, donc à ma droite, je ne me trompe pas, on a Myriam Vincent, donc avec son roman Furie que vous avez lu, aimé, apprécié, illustré, et ça tu ne l'as pas vu, mais voilà, je pourrais te donner des photos de ce qu'ils ont fait. Et donc il nous vient en direction du Québec. Enfin, en provenance, pardon, du Québec, et qui fait partie en même temps de la sélection d'un festival miroir qui est à Montréal. Voilà, donc ça, c'est une première chose, première personne, pardon. Et deuxième personne, on dit Marie Mangès. Oui, Mangès, c'est ça. Donc, avec ce merveilleux roman au parfum de cendre, qui, elle, nous vient de... pas très loin, voilà. Donc une franco-française et dont on va parler. C'est un peu moins exotique. Alors je prends très peu de place parce que je pense que l'exercice pédagogique est largement intéressant de les entendre eux. Juste pour resituer un peu les deux romans, je vais commencer par celui de Marie. Donc Sylvain Bragonard est thanatopracteur, particulièrement soigneux avec les corps des cadavres. Il les respire et semble comprendre, reconstituer leur vie. Et c'est un personnage qui est assez sombre et fermé. Arrive une jeune thésarde, qui ressemble d'ailleurs un petit peu à l'image qu'on peut s'en faire à Marie, qui est pleine d'entrain, elle, Alice, et qui s'intéresse à cette profession assez peu connue et reconnue. Que peut-il bien se passer entre ces deux personnages si différents? Vous le saurez peut-être tout à l'heure. Et à ma droite, donc, avec Furie, sans S, nous, c'est ce qu'on dit, puisqu'on a deux Furie, avec S et sans S. Elle, c'est la sans S. Donc, Marilyn est une bonne personne. Et sa vie aurait pu être douce et tout à fait bien comme banale. Sauf que sa meilleure amie, Julie, a été violée lors d'une soirée étudiante et les poursuites judiciaires n'ont pas été menées à terme. Julie se suicide et Marilyn veut la venger. Elle devient une tueuse à gages afin de mener son job jusqu'au bout.
Sa job, oui.
Sa job jusqu'au bout. Voilà. Alors, je vais laisser les élèves. On peut commencer. Alors, je vous présente Maëlle, Camille, Julien, Célestin. Et il y en a une.
Du coup, c'est Sarah, c'est pas Camille.
C'est Sarah, c'est pas Camille. Camille a eu peur. Pourtant, elle avait perdu à ciseaux papier, mais tant pis, elle avait gagné pourtant. Voilà. Donc, Sarah va nous refaire le job. La job. Vas-y.
Et du coup, je pose les questions. D'accord. Bah, du coup, c'est sur le parfum des cendres. Comment et pourquoi vous êtes-vous intéressé au métier autour de la mort?
Alors, comment j'en suis venue à m'intéresser à ça? Bon, c'est vrai qu'à première vue, c'est pas très glamour comme sujet. Hein. On se réveille pas un matin en disant « Oh, je vais m'intéresser au thanatopracteur ». Bon, en fait, donc thanatopracteur, je sais pas si voilà, vous connaissez, c'est ceux qui embaument les morts. Donc, en gros, quand on est mort, il y a un travail de préparation sur le corps qui vise à redonner une apparence de vie en fait au corps, pour pas qu'il ressemble à un cadavre, mais qui ressemble davantage à une personne endormie. Et ça, c'est un métier qu'on connaît pas tant que ça, parce que bon, on sait pas forcément tout ce qu'il y a derrière. Et moi, j'ai fait des études donc en anthropologie, donc on traite des hommes et de toute la société humaine et donc de tous les aspects. Et c'est la première fois que j'ai entendu ce mot thanatopracteur. J'avais jamais entendu parler de ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant, parce qu'en fait, c'est un métier dont on ne parle pas du tout. Enfin, c'est un secteur dont on ne parle pas, en fait, tous les métiers de la mort. Et moi, il m'a semblé que c'était très beau, en fait, ce métier, alors que ça peut paraître super glauque. Et en fait, quand je me suis un peu renseignée là-dessus, que j'ai vu la façon dont les thanatopracteurs parlaient de leur métier, ça m'a beaucoup touchée, parce qu'en fait, ils ne font pas ça pour les morts, ils font ça pour les vivants. Quand on les entend parler, y a toujours un grand respect pour le corps des morts, et il y a vraiment cette idée de travailler pour les vivants, pour qu'en fait, ils puissent faire leur deuil et continuer à vivre. C'était ça l'enjeu, c'est pas par délire macabre, je kiffe les morts, donc j'aime bien aller les tripoter. Enfin, c'est pas du tout ça, le concept, vraiment pas. Et donc, je me suis dit, bon, en fait, c'est un métier qui est super méconnu, sur lequel soit on ne connaît pas, soit on a plein de préjugés. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à fouiller là-dedans et ça m'a donné envie d'en parler.
Une question peut-être pour...
Oui, pour... Alors. Alors, pourquoi avez-vous choisi le Canada comme cadre à votre roman?
Ce sera une réponse très simple. En fait, je suis du Québec, je suis québécoise. Donc, c'était naturel pour moi, en fait, de mettre cette histoire-là au Québec. Donc, Marilyn est une jeune femme de 25 ans qui habite à Montréal. C'était les lieux, en fait, que je connaissais le mieux, la culture que je connaissais le plus. Et c'est important pour moi parce qu'il y a tout un pan du roman qui est évidemment imaginé. Donc, tout ce qui est réseau criminel, tueur à gage, meurtre, j'ai pas pris ça de ma vie personnelle. Et pour être sûre que le roman avait quand même un ancrage concret, donc pour plus facilement pouvoir insuffler une ambiance réaliste, ben c'était plus facile pour moi d'aller ancrer l'histoire dans des lieux que je connaissais très, très bien. Donc, l'université où elle va, c'est une université où je suis allée. Donc, c'est vraiment, c'est très, très, très précis, en fait, les descriptions des lieux grâce à ça. Donc, c'est tout simplement pour ça. Et elle parle comme moi aussi, quand même.
C'est pour le parfum des cendres, je précise au cas où. Vous avez dit dans l'une de vos interviews que vous n'êtes pas allé au contact direct des thanatopracteurs. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi?
Effectivement, pendant l'écriture du roman, j'ai moi-même pas rencontré de thanatopracteur en visu. J'ai fait ma documentation essentiellement en ligne, où en fait j'ai à peu près lu et regardé tout ce que j'ai pu trouver sur Internet. J'ai lu des témoignages de thanatopracteurs, donc il y a eu un gros boulot de recherche, mais sans aller moi-même sur le terrain voir des thanatopracteurs. J'aurais bien aimé, mais il y a plusieurs raisons qui font que je ne l'ai pas fait. Déjà, en fait, j'ai écrit le livre pendant le premier confinement. Donc, en gros, il n'y avait plus rien. Tous les rituels funéraires étaient suspendus. Enfin, en fait, même si je voulais aller observer la pratique, je n'aurais pas pu à ce moment-là. Donc, en fait, la question, c'est même pas tant posé que ça. J'aurais pu contacter un thanatopracteur pour lui demander de m'expliquer un petit peu les choses. Je n'en connaissais pas personnellement. Et en fait... J'ai pas osé parce que c'est un peu bizarre quand on publie un premier roman. Je sais pas si ça fait ça pour toi, Myriam, mais moi j'étais un peu dans mon coin, j'écrivais mon petit truc en secret et puis je trouvais que c'était un peu bizarre et donc je me voyais pas aller contacter un thanatopracteur en lui disant je vous connais pas, mais voilà, j'écris un roman. Alors non, j'ai jamais été publiée, je suis une parfaite inconnue, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer des trucs? Ça me paraissait super bizarre comme démarche. Donc du coup, je l'ai pas fait. Je me suis contentée de faire avec ce que j'ai pu trouver en ligne. Et puis pour le reste, j'ai imaginé. Finalement, j'ai pu recueillir suffisamment de matériaux documentaires pour avoir à peu près les infos que je voulais. Et pour la petite histoire, j'ai rencontré quand même des thanatopracteurs après la publication. Donc j'étais quand même super, super flippée parce que je me suis dit, si ça se trouve, en fait, j'écris que des conneries et puis si ça se trouve, ils vont me tomber dessus, ils vont me dire que c'est nul. Et pour le moment, j'ai eu des bons retours. A priori, ça va, j'ai pas écrit de conneries, tout va bien. Mais c'est vrai que non, je suis pas moi-même allée voir des thanatopracteurs pendant le processus d'écriture.
Tu peux rebondir,
Pourquoi avoir choisi deux personnages aussi opposés que Sylvain et Alice?
Alors c'est vrai qu'ils sont, ils sont complètement aux antipodes. En fait, moi, dans ma tête, à la base, il y avait le personnage de Sylvain, donc, qui est quelqu'un de super taciturne, très renfermé, qui s'est complètement coupé du monde des vivants. Donc j'avais ce personnage-là et j'avais son histoire, je voyais sa personnalité, à quel point il était complètement enfermé dans son monde. Et en fait, il fallait quelqu'un pour le sortir de sa bulle. Donc je m'étais dit, il a lui, et puis il va falloir qu'il se débloque, parce que le pauvre, il est complètement coincé du cul, il a un problème, quoi. Donc il fallait vraiment quelqu'un pour le débloquer. Et c'est là qu'en fait le personnage de Dali s'est apparu. Je me suis dit, ben, ça va être quelqu'un qui est complètement différent de lui, qui elle vit en musique, vit dans un univers de son, qui est très extraverti, et c'est elle qui va venir le déranger en fait, qui va venir faire irruption comme ça dans sa bulle, et puis le titiller, le déranger, et en fait c'est elle qui va venir le débloquer. Donc ça s'est un peu construit comme ça par opposition, sachant que tout le livre c'est un peu des oppositions, le parfum et la mort on n'associe pas à quelque chose d'agréable, et j'aimais bien jouer comme ça sur les oppositions ou des associations auxquelles on pensait pas forcément. Voilà.
La musique est très présente dans votre roman et dans votre vie.
Ouais, elle est très présente dans ma vie aussi. Enfin, toutes les chansons que j'ai citées dans le livre. Enfin, il y a beaucoup de morceaux, de musique qui est citée dans le roman. Et c'est que des trucs que j'ai écoutés moi-même en écrivant. Donc j'ai mes petites playlists. Et en fait, c'est celle qui est dans le roman. Je pense que c'est aussi super important pour moi. Ça fait partie. Pour moi, c'est quelque chose qui nous rend vivants, en fait. La musique, comme les sens, comme l'odorat, c'est vraiment quelque chose qui nous rend vivants, qui procure des émotions, qui fait que voilà, je me sens être en vie. Et donc, pour moi, ça paraissait super important que la musique soit très présente et un grand rôle dans le roman. Donc, ouais.
Est-ce que la musique a de l'importance, là, dans Fury ?
Dans Fury, en fait, le côté musical n'est pas très développé. Hein, je pense les références sont plus à la littérature, donc c'est pas quelque chose que j'ai exploré. Mais dans ma vie, moi aussi, la musique est très importante. Puis en fait, je me fais des playlists souvent par rapport à mes romans, là, quand je suis dans la phase créative, là, pour écouter des chansons en boucle qui me font penser aux personnages où je vais aller dans l'histoire. Donc, ouais.
Vous vous êtes inspiré des comics américains, lequel préférez-vous et pourquoi?
C'est tellement une bonne question. J'ai deux réponses à ça. Donc, la première réponse, c'est le comics américain qui m'a... Depuis que je suis toute petite, que je lis, en fait, que j'aime le plus, en fait, c'est la série des X-Men, qui est comme une série presque infinie. Là, il y a des centaines de numéros, je ne les ai pas tous lus. Mais j'ai toujours beaucoup aimé l'espèce d'esprit d'équipe, de groupe, de famille trouvée là, à travers. Et ça permet... Les X-Men permettent aussi d'aller voir plein de questions sur la diversité de genre ou la diversité culturelle là, dans une même société. Donc, ça a toujours été des comics qui m'ont beaucoup attirée. Mais plus récemment, comme adulte, j'ai découvert des séries plus indépendantes, disons, un peu moins connues. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé la série Bitch Planet, dont je parle dans le livre, qui est un comics assez dur, donc, qui est assez violent, mais qui mêle science-fiction, vie dystopique et vie sur d'autres planètes, exploration spatiale. Donc, c'est un très bon comics si jamais il y a des amateurs dans la salle.
Alors, je permets... On parle de violence. On était étonnés avec cette petite bande-là quand ils ont présenté ces romans, et notamment Fury dans une bibliothèque, d'une personne qui était là et qui dira « Mais moi, je n'ai pas pu lire. Il y a trop de violence, trop de... Ah non, 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 je ne pouvais pas. » Alors, comment est-ce que... eux, ils ont dit que « Bon, non, quoi. » Alors, pourquoi ? Pourquoi avoir été aussi forte dans la violence?
Je pense quand même que je ne tombe pas dans trop dans la surenchère de violence. Trop, je pense que je l'utilise de façon dosée. Donc, je sais en fait qu'il y a des gens qui trouvaient qu'il n'y en avait pas assez dans le livre, qu'il y avait trop de passages où on était dans une vie normale, où on était dans des réflexions, peu importe. La violence, en fait, c'est juste que si je veux traiter de violence sexuelle, ben, je voulais pas le faire en contournant le sujet. Je voulais le faire de face en allant vraiment voir ce que ça faisait au personnage, à quoi ça ressemblait, donc de façon réaliste. Et ensuite, la violence que Marilyn commet, c'est quand même une violence qui n'est pas... elle pense que ça va simplement être une vengeance, que ça va simplement être satisfaisant. Et finalement, je pose un peu la question de est-ce que la vengeance peut vraiment apaiser quoi que ce soit? Est-ce que de commettre une violence sur un autre humain, même quand on pense qu'on a raison de le faire, est-ce que ça ne vient pas quand même trahir notre humanité en quelque part? Donc, c'est important qu'on sache c'est quoi ces actes violents-là, qu'on soit dans la brutalité qu'elle vit au quotidien pour comprendre un peu mieux les choix qu'elle va faire par la suite.
Je pense qu'on peut écouter un petit peu de cette violence qu'on ressent bien dans l'écriture. Célestin.
Donc bonjour, moi je vais vous lire un extrait de Fury qui se passe vers la fin du roman. C'est un contrat du coup de Marilyn qui a mal tourné. Je fais volte-face, le cœur battant, pour découvrir un homme. Pas du tout celui que j'ai observé ces derniers jours, mais un homme plus grand, plus musclé, en combinaison sombre, qui tient dans ses mains un revolver. Fuck, fuck, fuck. J'arrive à éviter le premier coup de feu, étouffé par le silencieux au bout du gun, et je réussis à m'enfermer dans la salle de bain pour essayer d'élaborer un plan, tout en tentant de comprendre ce qui se passe. C'est qui ? Un associé de mon target ? Son garde du corps ? Mais comment ça se fait que je l'ai jamais vu pendant mes heures de surveillance ? Ça n'a pas de sens. L'homme tente déjà de défoncer la porte. Bien sûr, il tire au travers. Mais j'ai pas été assez conne pour rester planté là. Il faut que j'arrête de penser au pourquoi de ce qui arrive et que je trouve le comment me sortir de là. Il y a aucune issue dans la pièce où je suis, même pas une fenêtre. Il faut que je passe par le gars si je veux survivre. Je prends une respiration, me calme. Ok, je peux y arriver. Je prends un des couteaux attachés à ma ceinture, me pose tout près du cadre de porte et quand elle réussit enfin à le faire céder, j'essaie de lui planter mon arme dans le cou. Je rate, lui attrape l'épaule, mais lui fait assez mal pour qu'il crie. Porte sa main gauche à sa blessure, sa main droite tenant son revolver, je me jette dessus. Réussis à lui faire perdre sa prise, mais dans notre combat, l'arme est projetée à l'autre bout de la pièce. J'essaie pas d'aller la chercher. Je me retourne plutôt contre l'homme, prends un autre de mes couteaux, vise la gorge de nouveau, mais il est rapide et fort. Il arrête mon bras, me punch dans le ventre, puis dans les côtes. Je perds le souffle. Il prend mon couteau, mais c'est à mon tour. Un genou dans l'entrejambe, puis dans le plexus solaire. Le couteau tombe par terre, je le kick plus loin. Whatever, il m'en reste encore un. Mais alors que je referme les doigts dessus, l'homme me prend par les épaules et les hanches et me jette contre le mur derrière moi, comme dans un fucking film américain. Fuck, jamais demandé à vivre Atomic Blonde, moi. Mon corps frappe lourdement le mur, s'échoue par terre. Ok, on n'avait pas été jusque-là dans mon entraînement. Et je peux à peine voir l'homme ramasser mon couteau, à travers ma cagoule qui s'est déplacée légèrement et ma tête qui tourne, et tout à coup, au milieu de la panique, je comprends ce qui se passe.
Merci pour la lecture. J'adore entendre les extraits dans un autre accent que celui dans lequel je l'ai écrit, si on peut dire. Là. J'aime vraiment ça. Je peux rebondir sur... cette violence-là, en fait, étrangement, ça a été un beau défi à écrire parce que c'est des scènes de combat très classiques. Hein, si on regarde des films de Marvel, par exemple, ou si on regarde Atomic Blonde, qui est cité là, c'est des scènes qu'on a souvent accès de façon visuelle, donc dans les bandes dessinées, dans les films, dans les séries télé. Donc, de l'écrire pour que ce soit intéressant, pour que ce soit punché, pour qu'on comprenne très bien ce qui se passe, c'était un beau défi pour que ça reste très rythmé et aussi pour pas qu'il y ait d'incohérence. Donc, par exemple, je dis, bon, la main gauche est sur la blessure, le revolver dans la main droite, ben pas deux lignes plus loin dire que dans sa main gauche, il y a un couteau, peu importe. Donc, il y avait quand même... C'était assez amusant à écrire, en fait, ces scènes-là.
Vous avez sûrement dû vous documenter sur les tueurs à gages. Qu'avez-vous appris d'étonnant?
Étonnamment, je pense que j'ai rien appris qui m'a étonnée parce que c'est tellement... On a tellement de séries qui traitent de violence aujourd'hui ou de films qui traitent de violence. Juste si on pense à toute la vague des séries sur le true crime, donc les vrais meurtriers, les vrais tueurs en série, elles pullulent et bon, j'en écoutais beaucoup, donc j'avais fini par avoir quand même des connaissances de fond, disons, sur le sujet en quelque sorte. Ce qui m'a surpris dans ma recherche, en fait, c'est que j'ai été faire des recherches très précises sur la façon dont on peut tuer quelqu'un. Donc, comment est-ce que, par exemple, ce qui m'a surpris, c'est que c'est quand même un peu plus compliqué que ce qu'on voit dans les films. Donc, dans un film, on va étrangler quelqu'un 4 secondes et la personne est morte. Mais en fait, ça prend vraiment une minute ou plus qu'il faut couper l'air. Bon, là, on dirait que c'est malaisant que je vous dise ça. Mais... je sais pas pourquoi je me mets à vous expliquer ça, mais bref, ça, c'est des petits détails anatomiques comme ça, c'est ce qui m'a plus surpris, ou bon, la façon dont on peut passer entre les côtes pour aller chercher des organes, bref. tout ça a été plus surprenant parce que c'était des connaissances que j'avais pas du tout, et ça, c'était quand même assez éloigné de ce qu'on voyait ou de ce qu'on lisait habituellement quand on parle de choses comme ça. Et j'étais très fière parce que moi non plus, j'aurais pu appeler un médecin, ou on m'a posé la question si j'avais parlé à des professionnels de la santé, par exemple, évidemment pas des tueurs à gages. pour savoir si c'était correct anatomiquement ce que j'écrivais. Et je ne l'ai pas fait parce que moi aussi, comme première autrice, je ne me sentais pas légitime d'appeler quelqu'un et dire « Bon, je sais que vous sauvez des vies habituellement, mais moi, j'écris un roman. J'aurais besoin de quelques détails. » Et finalement, après la publication, il y a une femme médecin qui est venue me voir, qui m'a dit que c'était très correct ce que j'avais écrit, que les informations étaient exactes. Donc, je suis assez fière de mes recherches sur Google, finalement, qui ont porté fruit.
Et les tueurs à gages ne sont pas manifestés?
Non, personne à date ne s'est manifesté. On n'a pas enquêté sur mon cas non plus, donc je pense que ça va de ce côté-là. J'ai pas fait beaucoup de les tueurs à gages, honnêtement, j'ai fait quelques recherches très rapides pour savoir, par exemple, c'était quoi les rémunérations possibles, donc combien d'argent pour un contrat, des choses comme ça, mais j'ai pas trop poussé plus loin dans cet aspect-là.
On pourrait peut-être passer un peu avec Marie.
Bonjour, du coup moi je vais vous lire un extrait qui se passe au milieu du livre et c'est un moment où Sylvain et Alice sont dans la voiture. Vous ne trouvez pas ça dingue, vous, que l'homme soit le seul animal à réaliser des rites funéraires? C'est dingue, non? La question avait surgi de nulle part et Sylvain, qui commençait à avoir l'habitude, haussa les épaules. Qu'est-ce qu'on en sait? Bah, jusqu'à présent, on n'a jamais rien trouvé de concluant chez les animaux à ce niveau-là. En tout cas, est-ce que ça veut dire que l'homme serait le seul à avoir développé une pensée métaphysique? Il soupira, n'en savait fichtrement rien. Et du reste, ça ne changeait pas grand-chose à ses affaires. Elle reprit avec animation, était visiblement d'humeur philosophique, lui, pas du tout. Ce qui ne semblait pas perturber outre mesure. En fait, étudier la thanatopraxie et ce genre de truc, c'est un peu essayer de toucher à l'essence de l'homme. Ce qui vraiment fait la spécificité humaine. Vous voyez? Pourquoi est-ce qu'on est les seuls mammifères à se casser le cul pour tenter coûte que coûte de conserver des bouts de nos pères décédés? Il écouta d'une oreille distraite, l'autre était concentré sur la musique, ses trois petites notes serinées, par montants venues des tréfonds du souvenir réveillé, les mille et une peines qui ne veulent pas mourir. Les humains, ils acceptent pas éphémère, ça les rend dingue. Ils voudraient toujours tout conserver, que ce soit le corps ou l'âme ou quoi que ce soit d'autre. Faut qu'il reste un truc, tout pour lutter contre le transitoire. Et cette lutte, bah, ça s'appelle l'humanité. Comme c'est profond. C'est ça, foutez-vous de ma gueule. Non mais sérieusement, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Un sourire piquant apparut sur ses lèvres. Venez pas me dire que vous n'êtes pas vous-même obsédé par la conservation. Il se ferma, fronça les sourcils, main légèrement crispée sur le volant. Ce que je veux dire, finit-il par marmonner, c'est que je pense que l'homme soit foncièrement différent des autres bêtes, avec ou sans rite funéraire. On est juste des animaux, on naît, puis on crève, et entre les deux, bah, on bouffe et c'est tout. Un peu réducteur comme vision de l'humanité.
Impression, Marie.
Bah, merci pour cette lecture. Ouais, ça fait toujours... C'est quelque chose quand on entend les textes lus par quelqu'un. Et en plus, celui-ci, il n'avait jamais été lu en rencontre, cet extrait-là. Donc merci. Alors, pour la petite histoire, un jour, j'étais en rencontre. Et puis là, quelqu'un a posé une question. Il a fait « Et les cimetières d'éléphants ?» Et j'y avais pas du tout pensé. Donc, bon, l'idée que les animaux n'ont pas de rite funéraire, c'est à nuancer un petit peu, même si ce n'est pas pareil. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cet extrait? Oui, l'idée du roman, elle est aussi partie de cette idée de comment on fait pour enterrer nos morts et comment on fait pour faire son deuil. Donc, ça rejoint l'idée de l'extrait. Enfin, moi, c'est une idée qui est apparue au moment du premier confinement où justement tout ça s'était suspendu. Genre, on pouvait plus enterrer qui que ce soit. Enfin voilà, il y avait des morts à l'appel tous les jours. On entendait un peu le décompte macabre. Enfin, c'était vraiment quand on se rappelle une période un peu sordide, quoi. Et voilà, on pouvait plus. Moi, j'ai des amis qui ont perdu à ce moment-là des membres de leur famille. Et on pouvait plus enterrer qui que ce soit. Donc tout ça s'était suspendu. Et donc là, je me suis dit, mais finalement, à quoi ça nous sert tout ça, tout ce qu'on fait autour de la mort, et comment ça peut aider en fait à continuer à vivre et à dire, bah, ok, là c'est bon, c'est une parenthèse qui est fermée, et puis bah, malgré tout, il faut continuer à vivre avec la présence de la mort. Et donc du coup, je suis vraiment partie de ça, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les sociétés, sous des formes très très différentes. Mais dans toutes les sociétés, il y a cet encadrement de la mort, c'est-à-dire, c'est pas juste on meurt, on enterre et puis on passe à autre chose. Il y a toujours plein de trucs autour qui nous aident en fait à continuer à vivre. Et ça, c'est aussi une question qui m'a interpellée, me dire ben, finalement pourquoi, à quoi ça sert et en quoi ça peut nous aider finalement à intégrer la mort dans notre mentalité, à dire que bah oui, la mort ça existe et la vie aussi et il faut composer avec les deux. Donc voilà.
Pourquoi ne pas avoir terminé votre roman par une histoire d'amour entre Alice et Sylvain ?
Mais c'est du spoil !
Nous l'avons lu, en général.
Vous l'avez lu ? Bon. Alors, je dis spoiler, moi je suis. effectivement, il y a un truc qui se crée entre les deux. Qui de temps en temps peut tourner un peu à la romance. Moi, je voulais surtout pas que ça soit ça. C'était assez clair dans ma tête dès le début que de toute façon, ça allait pas se terminer comme ça et que Alice, de toute façon, elle allait partir. Voilà. Je suis désolée. J'espère que vous l'avez vraiment tous lu parce que là, c'est vraiment du gros spoil. Le personnage d'Alice, c'est aussi quelqu'un qui ne s'attache pas, c'est-à-dire elle passe d'un univers à l'autre, et sa caractéristique, c'est que justement, elle ne reste pas. Elle part, elle est fondamentalement nomade, et donc pour moi, ça paraissait évident que voilà, elle allait rester jusqu'à temps que Sylvain se débloque, et après, elle allait partir, et ça n'empêche pas qu'il y ait quelque chose de très très fort qui s'est créé entre eux. Moi, je crois aussi à ces histoires éphémères qui peuvent se nouer à un moment donné, ne pas rester, mais laisser une empreinte dans la mémoire qui est très très forte. Je ne sais pas si vous avez vécu ça dans votre vie à un moment donné, mais parfois, il y a des rencontres qu'on fait à un moment précis. Et qui restent en mémoire et qui en fait nous ont aidés pour beaucoup de choses, qui ont vraiment débloqué des choses en nous, même si la personne elle reste pas. Et c'est aussi un travail à faire d'accepter que les choses soient éphémères finalement et que voilà, ça se fait à un moment donné et puis après les personnes elles partent et puis voilà, enfin c'est comme ça. Donc pour moi ça faisait sens dans l'histoire, par rapport à la personnalité des personnages, par rapport à l'histoire, à cette idée de que les choses sont éphémères et qu'il faut l'accepter en fait. Ils ne pouvaient pas rester ensemble, enfin, c'était pas ça le concept. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question.
Je peux compléter un tout petit peu ici en posant une question, puisqu'on on va effectivement vers la fin. Il y a une scène quand même d'amour physique qui est absolument extraordinaire. On va la lire là, sur toutes ces nuances de parfum, peut-être introduire ça. Je ne me souviens plus si vous aviez prévu une question sur toutes les odeurs ou pas. Je ne crois pas. Hein. On va peut-être revenir sur... Tout à l'heure, on a parlé un petit peu des comics américains pour Myriam. Et là, pour Marie, c'est bien évident. Il y a plein de clins d'œil au parfum de Susskind. Est-ce que vous l'avez lu ? Vous l'avez...
Ah oui.
T'avais noté, mais je ne me souviens plus. Vas-y, pose une question.
Vous avez dit, vous êtes inspiré du roman Le Parfum de Susskind. Combien de fois l'avez-vous lu et quels éléments vous ont plus, vous ont le plus inspiré?
Merci. Alors, combien de fois? J'ai pas compté. Je pense pas tant de fois que ça. On va dire du début à la fin. Le truc avec Le Parfum de Susskind, c'est que c'est un livre que j'ai lu. Vous êtes en troisième, ouais. Bah j'avais votre âge, exactement. Et ça m'avait vraiment hyper hyper marqué comme lecture. Enfin si vous l'avez lu, je pense que c'est une lecture qui reste vraiment en tête. Enfin en tout cas moi ça m'a un peu traumatisée. Et en même temps je trouvais ça hyper beau. Enfin les pages sur les parfums et tout. Enfin et donc du coup je l'ai lu à 14 ans et puis après je l'ai pas relu jusqu'au moment où en fait le premier confinement etc. C'est une lecture qui me restait en tête en fait, qui était encore très très présente dans ma tête même si je l'avais pas relu depuis. Et en fait, au moment du premier confinement, pour la petite histoire, j'ai perdu l'odorat pendant cette période-là à cause du Covid. Et donc, j'ai commencé à être complètement monomaniaque avec les odeurs, les parfums, tout ça. Enfin, c'est devenu complètement obsessionnel. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, cette lecture est ressortie, où je me suis souvenue du parfum de Susskind et je me suis dit, mais c'est ça, lui, il en parlait tellement bien des odeurs que j'ai envie de le relire. Et donc là, je l'ai relu, j'ai repris des passages, etc. Mais de façon, je n'ai pas relu de A à Z, j'ai vraiment juste pris des passages. Et du coup, ça a été super inspirant dans la façon dont il décrit les odeurs, surtout. Parce que bon, c'est... OK, les personnages peuvent se ressembler dans leur univers un petit peu d'odeur, de parfum, mais sinon, à part ça, dans l'histoire, c'est pas du tout la même chose. Moi, ce qui m'a surtout inspirée, c'est la façon dont il parle des odeurs. Parce que décrire une odeur, c'est hyper dur. Enfin, en fait, on a très peu de vocabulaire pour décrire des odeurs. Je sais pas si vous essayez de décrire l'odeur d'une table. En fait, on n'a pas beaucoup de mots pour décrire ça, en fait, de base. Il y a enfin, c'est vraiment quelque chose qui est un peu impalpable, qu'on a du mal à décrire. Et lui, il le fait tellement bien que je m'en suis inspirée. Je me dis, mais si, voilà, le Graal, c'est ça. Si je peux, ne serait-ce que arriver à décrire les odeurs là, par rapport à ce qu'il fait, c'est déjà énorme. Et donc voilà, la source d'inspiration, elle a surtout été là-dedans, dans l'écriture et un peu dans ce personnage un peu bizarre, très renfermé et avec un rapport aux odeurs hyper viscéral. Donc voilà, les sources d'inspiration, elles ont été là.
Et dans son nom même.
Et dans son Alors, dans son nom, oui, parce que la sœur de Sylvain l'appelle ma grenouille, en référence à Jean-Baptiste Grenouille, du fait de cet odorat très, très développé, où il arrive à discerner vraiment de microscopiques nuances d'odeur. Donc, voilà, d'où le clin d'œil à, finalement, ce roman qui m'a énormément inspirée et beaucoup aidée dans la description, surtout.
Je pense que ça a été une réussite, en tout cas, parce que, justement, en lisant, moi, c'est ce que je me disais, que je n'avais pas autant de vocabulaire pour décrire des odeurs. Et je trouvais ça impressionnant comment, même si tu décris tellement d'odeurs, c'est jamais redondant, c'est jamais répétitif. Tu réussis vraiment à aller dans la précision pour chaque truc. Donc, c'est vraiment intéressant.
Bravo. Merci. Merci beaucoup. Bon, je sais pas. Après, bon, il y avait aussi un enjeu. C'est un gros boulot parce que de base, moi, j'ai aucun vocabulaire lié aux odeurs, pas particulièrement. Donc, ça a demandé des heures et des heures où j'essayais de trouver le mot juste. C'était super dur. Et comme à ce moment-là, moi-même, je sentais plus rien, il y avait aussi l'idée que ça devenait presque un truc thérapeutique où il fallait que moi-même je sente à travers mes mots et que je retrouve l'odorat en fait à travers ce que j'écrivais. Donc je me disais, si j'arrive moi à sentir à travers ma propre description, déjà c'est bien, et si ça peut marcher sur d'autres personnes, du coup c'est très bien, mais c'était aussi un truc pour moi-même quoi. Donc finalement ça a aidé à essayer de trouver le mot juste pour que moi-même je puisse sentir en fait à travers les mots. Voilà.
Mais ça se sent, c'est le cas de le dire, énormément. Je ne connaissais pas l'anecdote de la privation de l'odorat, mais c'est vraiment, on le ressent vraiment, et tous ces phénomènes un peu de synesthésie, de relation entre l'odorat, en même temps le toucher, la vue, quand il regarde une personne, elle doit sentir ça et reconstituer la vie à travers les odeurs, c'est très très fort. Pour un monsieur presque fragonard et non pas bragonard. Parfait. Question peut-être pour
Certains de vos personnages sont-ils inspirés de personnes réelles?
Si mes personnages sont inspirés de personnes réelles, j'essaie de ne pas faire ça en fait parce que j'ai peur de me faire prendre. Et certainement, pour mes personnages principaux, donc particulièrement pour Marilyn et Lindbergh, j'ai l'impression que c'est des personnages qui sont très, très comics en fait, hein, qui sont des trop grosses personnalités pour être vraiment réelles, entre guillemets. Donc je me suis vraiment inspirée plus de personnages de culture pop pour ces deux personnages-là. Par contre, pour ce qui est de Zoé, par exemple, qui est un personnage qui est quand même plus grounded dans la réalité, c'est vrai que je me suis inspirée de quelques personnes dans mon entourage donc, qui sont particulièrement, je trouve, intéressantes, douces, que moi, j'ai beaucoup d'affinité avec elles. Donc, pour des répliques, pour la façon dont elles parlent, pour ses intérêts, je me suis inspirée un peu de ça, donc d'amis que moi, j'ai. Et aussi pour les anecdotes de personnages très, très en arrière-plan, là, où, par exemple, quand ils sont dans des classes, puis il y a des étudiants qui s'obstinent sur des trucs, ou des étudiants qui sont un peu snobs, qui veulent sûrement, qui ont une idée très claire de la littérature, qui veulent pas en déroger. Je me suis inspirée vraiment d'expériences que j'ai eues moi-même comme étudiante. Donc, parfois des dialogues qui étaient presque repris là, de choses que j'avais entendues qui m'avaient un peu fait rouler des yeux. Donc, ça, oui.
Pourquoi Marilyn est-elle une étudiante en lettres et non en droit ou en criminologie?
C'est une question intéressante. C'est vrai que j'aurais pu aller là-dedans, mais en fait, je trouvais ça plus intéressant qu'elle ait aucune notion en fait, de ces trucs-là avant de s'y plonger. Et c'est encore une fois aussi simplement pour m'aider à ancrer une partie de sa vie dans le concret. Donc, encore une fois, il y a toute une partie de sa vie qu'il fallait que je fasse un peu de recherche, que j'utilise mon imagination pour m'assurer que ce soit quand même crédible, mais on est dans la criminalité, dans les meurtres, donc c'est très loin de ce que je vis. Et donc, pour sa personnalité de jour, c'était plus facile d'avoir un ancrage très concret pour moi en la plaçant dans une situation où j'ai moi-même été, donc étudiante en lettres à l'université. Ça me permettait aussi d'amener un aspect d'intertexte que je trouvais intéressant, donc de pouvoir convoquer d'autres textes qui m'ont inspirée dans le roman, d'autres auteurs, autrices qui m'ont inspirée directement à travers Marilyn qui les lit dans ses cours ou qui les a lus dans ses cours. Donc, ça me permettait de faire tout ça.
Alors, il y a quand même quelque chose dont ils n'ont pas parlé, c'est le pourquoi du crime. c'est-à-dire cette vengeance à l'égard des violeurs. Est-ce qu'on peut en parler un peu, le pourquoi de l'écriture, en fait? Est-ce qu'il y a envie de faire uniquement une histoire de tueuse à gages? Mais c'est quand même pas rien, c'est quand même en raison du viol et de la société qui n'a pas reconnu le viol.
Effectivement, c'est sûr que ça a été écrit dans un contexte où est-ce que moi j'avais vécu plusieurs vagues de dénonciations. Donc en 2013, ça a commencé quand j'étais à l'université dans le département de littérature où j'étudiais. Ensuite, il y a eu agression non dénoncée, balance ton porc, MeToo. Donc les vagues se succédaient pendant des années, et j'avais l'impression que de vague en vague, on n'avançait pas tant que ça dans l'enjeu. En fait, j'avais l'impression qu'il y avait même un découragement de dire c'est vrai, les victimes n'arrivent pas à obtenir justice, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça. Et je trouvais ça décourageant. Je trouvais aussi qu'il y avait un manque d'empathie envers les victimes, particulièrement les premières vagues. Et il y avait beaucoup de témoignages qui étaient accueillis avec beaucoup de violence, donc on ne croyait pas du tout les victimes, et même on les insultait d'essayer de dénoncer. C'était vraiment violent à recevoir, et je me disais, les gens, ils réfléchissent pas à cette question-là, parce que si tu y réfléchis, tu dis pas des choses comme « mais pourquoi elle s'est pas débattue » ou « si elle a bu, si elle s'est habillée comme ça, c'est qu'elle voulait ça dans le fond ». Je veux dire, tu y réfléchis 4 minutes plus profondément et tu te rends compte que ça n'a aucun sens, ces arguments. Donc, je voulais écrire un livre où on traitait de ces questions-là et peut-être où ça pouvait amener un peu plus d'empathie envers les victimes, de montrer à quel point le problème est grand, pour amener un petit peu plus d'attention là-dessus. C'est pour ça aussi que donc, le témoignage du viol de Julie, pour moi, c'est important que ce ne soit pas un viol dans une ruelle par quelqu'un qu'elle ne connaît pas, que ce soit en fait une situation qui arrive malheureusement à plusieurs étudiants dans un party alors qu'elle a bu avec des gens qu'elle connaît. Donc, une situation où est-ce qu'il y a beaucoup de zones qui peuvent rendre difficile d'aller chercher justice après. Donc, j'étais habitée par toutes ces questions-là, évidemment, quand j'ai voulu écrire le livre, et ça m'apparaissait comme aller un peu de soi, de jumeler ça avec ma passion pour la figure du justicier, de la justicière, comme on les voit dans les comics, parce que c'était justement un aspect de la société où je trouvais que la justice, le système de justice traditionnel n'avait pas l'air d'être adéquat pour être capable de traiter de ces questions-là. Donc, je trouvais intéressant d'aller chercher cette figure qui essaie de prendre la justice sur ses épaules, avec tout ce que ça comporte comme dilemme moraux, parce qu'évidemment, ça reste une personne qui commet des violences, même si elle les commet sur des personnes qui ont elles-mêmes été violentes. Donc, est-ce que vraiment ça peut arrêter le cycle de la violence? Est-ce que vraiment c'est une meilleure idée de la justice? Est-ce que la vengeance peut vraiment apaiser les sentiments qui sont venus d'une situation violente qu'on a vécue? Donc, effectivement, le contexte de l'actualité a été très, très prenant pour moi, là.
Et pour Myriam, en fait, écrire a été une certaine vengeance aussi.
Est-ce que écrire est une vengeance? Je ne sais pas. Ben c'était. Ah, oh, OK, ouais, c'est ça. Je pensais que c'était une affirmation. J'étais là. Non, je ne pense vraiment pas que c'était une vengeance. C'est sûr qu'au début, ça m'intéresse beaucoup, cette figure de la justicière et tout ce qui est tiré de la culture pop que je lis depuis que je suis tout petite. C'est sûr qu'il y avait quelque chose qui était le fun à écrire. Donc, c'était un roman qui, au début, était le fun à écrire, qui était satisfaisant aussi, c'est vrai, donc qui me permettait de faire passer une partie de ma colère dans l'écriture du roman. Par contre, dès que le projet est devenu plus sérieux, dès que j'ai commencé à me dire, je vais complexifier les choses, je vais vraiment aller approfondir l'histoire, c'était des sentiments un peu plus difficiles qui me venaient, parce que j'étais toujours plongée dans ces histoires de violences sexuelles, dans tout ce que ça entoure, donc c'était un peu plus lourd à porter parfois. Je pense pas que je me suis vengée de qui que ce soit, et j'ai pas nommé des gens, j'ai pas dénoncé là, dans ce livre-là non plus.
Non, mais c'est un peu rendre justice quand même.
Oui, en tout cas, j'espère que ça a permis d'amener un peu plus d'empathie pour l'histoire de certaines victimes, par exemple comme Julie, comme son témoignage à elle, ouais.
Très bien. Les garçons, d'autres choses ?
Marilyn, déçue par la justice, décide en quelque sorte de faire de l'affaire elle-même. Comment vous positionnez-vous par rapport à cette décision ?
C'est une question intéressante. En fait, tout le livre interroge cette question-là. Hein. Donc, quand j'introduis le personnage de Marilyn au début, je fais exprès pour qu'elle soit très sympathique. Je veux qu'on l'aime, je veux qu'on ait envie d'être à ses côtés. Mais je pense que pendant le roman, à un moment donné, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça. Je pense qu'on voit la part sombre, la part égoïste qu'elle a et qu'on finit par questionner ses choix, comme elle-même questionne ses choix. Elle n'arrête pas de répéter « Non, non, mais je suis une bonne personne », mais c'est pour se convaincre elle-même. Et en fait, elle n'est pas convaincue qu'elle fait la bonne chose et elle a beaucoup de dilemmes moraux par rapport à sa position. Et il n'y a pas de réponse tranchée à la fin du roman. Hein. Donc, c'est des questions qui sont trop complexes pour dire « voici la marche à suivre, voici ce qui est complètement bon, ce qui est complètement mauvais ». Évidemment, je ne pense pas que c'est bon de devenir sur un gage. Ça, c'est mauvais. Mais je veux dire quand même, l'idée de se faire justice ou l'idée d'essayer de se venger, je pense que c'est des questions très, très complexes. Et quand on n'est pas dans une situation qui nous touche, c'est facile de dire « non, il ne faut jamais faire ça ». Mais quand on vit une grande injustice, quand on vit un grand deuil, quelque chose qui vient nous chambouler complètement, ben, ça devient plus difficile de se positionner. Donc, en fait, moi, je me positionne pas vraiment clairement par rapport à ça. Je suis en réflexion toujours. Et je pense qu'il y a plusieurs réponses selon plusieurs situations et je suis pas décidée sur la façon de faire, sur qu'est-ce qui est une bonne façon de gérer une injustice qui peut nous arriver. Mais c'est sûr qu'une sueuse à gage qui commet autant de meurtres, je pense que ça, c'est pas une bonne chose. Là.
Ben, notre Sylvain, lui, ne se venge pas. Il subit.
Oui, bah, dans son cas, il y a à se venger de personne. En l'occurrence, c'est pas parce que c'est quelque chose de très arbitraire pour le coup. C'est vraiment la mort qui frappe. Et puis en fait, la douleur, c'est qu'il n'y a pas de coupable en fait. Enfin, ça arrive comme ça. Et puis c'est une sorte de malheur qui frappe. Et en fait, contre qui se retourner? Personne, rien. Et donc du coup, ça finit par se retourner contre lui-même. Parce que finalement, il est dans l'auto-sabotage, dans la vengeance envers lui-même aussi. Je pense qu'il y a quelque chose de très maso, où vraiment il va se détruire en fait contre ça. Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose dans la mort quand c'est effectivement lié à une violence envers quelqu'un. Quelque part, il y a une cible identifiée. Quand c'est juste la mort qui frappe, un accident ou des choses comme ça, c'est d'autant plus incompréhensible que ça apparaît, mais... Enfin, il n'y a pas de raison, en fait. C'est juste, c'est arrivé comme ça et c'est arbitraire. Et puis voilà. Et donc, pour arriver à intégrer ça dans son fonctionnement, c'est très difficile, je pense. Enfin...
Des questions encore ? Oui, mais après, c'est... Alors, on va peut-être passer les questions dans la salle, parce qu'il y a d'autres questions. En attendant, en tout cas, ce que je voudrais saluer, c'est le travail de la langue. D'un côté comme de l'autre. Et là, je pense à la lecture tout à l'heure de Julien, pardon. Lecture de Julien. Et à toutes ces interjections, comme dans les comics, de la même manière, mais qui ponctuent. Et pour nous, Français, bon, on connaît quand même les fac, et autres choses, on les a quand même entendues. Mais de les avoir restituées comme ça, cette langue au Québec, quand on le lisait, quand on enregistrait un petit peu, on était quand même très, très tentés par... imiter, entre parenthèses, l'accent québécois, puisque ça coulait de source dans l'écriture. Et ça, bravo, parce que c'est vraiment une qualité sonore, comme là, on a une qualité des sens dans l'odorat, qui suggère une vue, et puis tous les sons qui sont là. Vous avez des écritures, toutes les deux, qui sont extrêmement complémentaires, et même supplémentaires, parce qu'elles se rejoignent beaucoup dans l'ensemble. Une autre... Alors, j'ai vu qu'il y a une question devant. Vas-y.
Ben, comme ça. Ah oui, c'est bon. c'est par rapport à Fury, donc par rapport au personnage de Zoé, vous dites qu'elle est ancrée dans le réel, et c'est le seul personnage qui soit décrit physiquement, si je me souviens bien. Donc voilà, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi les autres personnages principaux ne sont pas décrits physiquement?
En fait, j'aime bien laisser ça au lecteur ou à la lectrice pour ce qui est des descriptions physiques. J'aime bien que les personnages qu'on puisse s'imaginer leurs traits physiques, donc qu'on puisse s'imaginer de qui ils sont inspirés comme ça. En général, ça me permet aussi de pas avoir d'avoir moins de jugement. Donc je sais pas, moi par exemple, si quelqu'un on a tendance parfois, et la littérature a une tradition d'associer des valeurs à une apparence physique. Donc par exemple, pendant très longtemps, ben, les sorcières étaient toutes laides, les princesses étaient toutes belles, donc on associait parfois des qualités morales à certains trucs physiques. Donc je voulais pas, j'ai toujours peur que les lecteurs fassent des associations, peu importe, donc je préfère ne pas me commettre. Mais pour Zoé, c'était plus cette espèce de... Marilyn tombe en amour avec elle d'une certaine façon. Donc, c'est l'humain qui devient le plus concret pour Marilyn. Elle tombe en amitié avec elle, disons, mais c'est quelque chose de très puissant et de très fort. Donc, tout son être est analysé par Marilyn du début à la fin. Donc, autant son esprit que bon, son physique, elle le remarque beaucoup. Et c'est pour moi, j'essayais de montrer quand on a un visage qu'on aime, donc on rencontre quelqu'un et ce visage tranquillement devient un visage aimé, qu'on reconnaît, ça peut être très très fort, les traits de la personne, qu'est-ce qu'il peut faire. Donc c'est pour ça que c'est la seule, en fait.
Et on peut dire aussi que c'est le personnage qui l'a fait revenir dans le réel aussi.
Absolument, oui, c'est une très bonne observation. Et en fait, t'sais, Fury, c'est un roman sur la vengeance, c'est violent et tout, mais c'est aussi un roman sur l'amitié, moi, je pense, parce que la raison qui pousse Marilyn vers la vengeance, c'est justement la perte de sa meilleure amie, vouloir venger sa meilleure amie, et ce qui la ramène du côté de l'humanité, ce qui la ramène dans la réalité, c'est le fait de se trouver une nouvelle amie. Donc, ça peut paraître un peu, parfois, j'utilise le mot québécois « quétaine », qui veut dire genre « gnangnan » ou « naïf », je ne sais pas trop, mais en fait, je pense que c'est très fort, l'amitié, là. Je pense que c'est une force qui peut vraiment nous vivifier et nous faire avancer, ouais.
Merci. J'avais une autre question aussi sur le personnage de Sylvain. Est-ce que vous pouvez dire que c'est le, en parlant photographe, enfin les anciennes photos en tout cas, le négatif du personnage justement du parfum de Suskin?
Le négatif. Ouais, peut-être d'une certaine façon. Enfin, je l'ai pas forcément conscientisé comme ça, mais oui, il y a des avec les mêmes caractéristiques communes. Finalement, il y a une sorte de retournement de situation. Après, pour autant, ouais.
Parce que autour du parfum, dans le roman de Suskin, il tue pour récupérer le parfum, ouais. Et lui redonne la vie avec le parfum. Dans ce sens-là, je voulais dire.
Et puis oui, c'est vrai. Et puis il y a ce, oui, en fait, je l'avais pas du tout. Enfin, je ne m'étais pas fait la remarque, mais maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté... Et puis le héros de Suskind, au contraire, il vole les odeurs pour les approprier à lui-même, alors que Sylvain va être, au contraire, donner un parfum aux autres. Enfin, il y a vraiment ce truc à contrario, oui. Alors, ce n'était pas du tout conscient, mais effectivement, ouais, il y a vraiment ce truc-là de négatif. Ouais, c'est vrai.
Merci.
Merci de cette réflexion.
Et oui, les auteurs, quand les auteurs en apprennent sur leur roman.
Mais je pense qu'il y a quand même une part d'inconscient, des fois, dans ce qu'on écrit. Ouais.
Donc, c'est une question pour vous deux. Quel passage de vos romans était le plus difficile à écrire et pourquoi?
Vas-y, commence.
Oh, okay. Bon. Je pense que c'était pas nécessairement un passage, mais c'était un aspect du roman qui était difficile. C'était c'est quand même un long roman déjà. Et dans la deuxième partie, c'était de trouver l'équilibre entre donner toutes les informations dont le lecteur ou la lectrice a besoin pour se rendre jusqu'à la fin, sans trop répéter de choses que j'ai déjà dit, sans trop cogner sur le même clou, sans trop donner de détails, mais en même temps de donner juste assez pour que le lecteur ou la lectrice puisse avoir le choc émotionnel que c'est supposé donner à la toute fin, donc le dénouement. Donc, c'était d'avoir cet équilibre-là entre pas trop en dire pour pas voler le punch, comme on dit, pour pas spoiler la fin, mais en dire suffisamment pour qu'on ait toute la puissance émotionnelle que ça peut avoir comme dernière scène.
Mais moi, je dirais que c'est un peu pareil. Enfin, du coup, si vous l'avez lu, ça ne spoile pas. Je pense que c'est aussi un roman qui structure autour d'un secret, enfin, le coup de l'odorat de Sylvain. Et toute la difficulté quand on construit une histoire, c'est d'arriver à faire en sorte que le lecteur ne s'y attende pas et à construire pour dire, semer quelques indices, mais en même temps pas trop pour ne pas qu'on s'y attende. Enfin, il y a vraiment ce truc-là qui n'est en fait pas facile à doser dans l'écriture. Après, il y a des parties sur les parfums où j'arrivais pas. Enfin, il y avait vraiment un blocage. Où, comment décrire cette odeur exactement? Je j'arrive pas. Donc ça a été aussi un peu. Enfin, dans mon cas, c'était un peu dur. Et moi, je dirais que la scène la plus difficile à écrire, vraiment incomparablement, c'est la fameuse scène d'amour dont vous parliez. Alors celle-là,
elle est magique, celle-là.
Ah bah tant mieux, parce qu'elle m'a donné du fil à retordre. J'ai recommencé 5 ou 6 fois. Genre vraiment, c'était horrible. Donc bon, Tant mieux, parce que c'est hyper dur, en fait. Enfin, c'est, cette scène-là, elle a été... Enfin, c'est la plus difficile pour moi.
Elle est toute en, en odorat, en douceur, en...
Ça devient très poétique, en fait, comme scène.
Très, très poétique, comme scène, ouais.
Bon, ben, tant mieux.
Non, d'ailleurs, parce que, en teaser, quand on présentait le roman dans nos apéros littéraires au cours de l'année, je disais, et alors là, la scène d'amour finale, je vous en dis une pas plus. Voilà.
Ça allèche.
Question...
Si on avait un, quel est le message que vous avez voulu faire passer à travers votre roman ?
Oh là là, alors, franchement, je ne sais pas. Parce que déjà, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a ?
Respirer la vie.
Respirer la vie. Oui, après, je ne sais pas si... Enfin, un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est plutôt... Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir une idée en tête que je veux transmettre forcément, plutôt des interrogations, des questionnements, des voilà, enfin une sorte d'ouvrir des portes, et c'est des choses sur lesquelles moi-même je suis pas sûre. La question c'était qu'est-ce qui nous rend vivants. Enfin, les questions que je voulais poser c'était qu'est-ce qui nous rend vivants et ouais, comment on arrive à faire son deuil, mais surtout qu'est-ce qui nous rend vivants. Je pense que je suis un peu partie de cette question-là, donc c'est pas vraiment un message, mais c'est plutôt une interrogation sur enfin, ça paraîtrait alors très pompeux, mais sur le sens de la vie, tout ça.
Non, c'est pas pompeux, je crois que c'est.
Tous les... oui, mais après, quand on dit ça, ça fait très voilà le sens de la vie. Mais il y a le mot sens qui est super important, et donc je voulais m'interroger sur le sens et l'essence de la vie. Enfin, voilà.
Oui, moi aussi. Donc, je pense que j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais moi aussi, c'était plus des explorations sur le thème. Bon, est-ce que la vengeance peut vraiment apaiser quelque chose? Est-ce que ça peut vraiment venir réparer quelque chose à l'intérieur de nous qui a été brisé par une expérience? Et c'est sûr que, bon, comme je l'ai dit tantôt, je voulais aussi peut-être amener des réflexions sur les violences sexuelles, surtout que les femmes vivent en particulier. Donc, qu'est-ce que ça fait, ce poids-là, cette menace-là qui pèse sur nous, qu'on se fait souvent dire beaucoup depuis un jeune âge. Donc, voilà, donc peut-être apporter des questionnements aussi ou une certaine volonté d'amener un peu d'empathie dans ces questions-là un peu plus.
Du coup, moi, ma question, c'est pour Fury. Ce serait pour savoir si vous allez faire une suite ou pas.
Oui, je me fais beaucoup poser cette question-là. Je sais, j'ai fait une fin ouverte, en fait. Hein, donc, moi aussi, je spoil ma fin. Donc, à la fin, on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'était quelque chose de très conscient. Donc, très rapidement, moi, je savais que je voulais que le roman se termine comme ça parce que, comme je disais, le roman questionne tout le long notre propre rapport à la vengeance, à la violence. Est-ce qu'on trouve ça satisfaisant, nous? Est-ce que Marilyn fait ou est-ce qu'on est complètement contre? Je pense qu'on peut osciller entre les deux, en fait. Et donc, la fin vient, en fait, vient représenter tout ça, le fait que ben, c'est au lecteur ou à la lectrice de se positionner, hein, puisque c'est une fin ouverte, je donne pas tout cuit dans le bec. Je pense que si j'avais donné une réponse ou l'autre, ça aurait été dommage, ça serait venu un peu annuler certains effets du roman. Donc moi, j'ai pas prévu de suite. Moi, c'était vraiment, mon intention était vraiment de finir sur une fin ouverte pour engager le lecteur, la lectrice encore plus, pour que le livre reste dans la tête encore plus. Cela dit, je me fais beaucoup poser la question, puis j'en ai discuté beaucoup. Ça fait un an et demi que j'ai sorti le livre maintenant. Et donc, je dois avouer que finalement, j'ai peut-être encore des idées pour les personnages que j'aimerais explorer, mais c'est pas en écriture, en tout cas, en ce moment. Peut-être un jour.
Mais il me semble avoir vu un roman sur une table de...
Oui.
Qui a exactement un peu la même tête avec un autre titre.
Oui, mais ça, c'est... effectivement, mais merci pour la perche. J'ai un deuxième roman qui vient de sortir mardi dernier que j'ai apporté ici avec moi, qui s'appelle À la maison. Par contre, c'est sans rapport avec Fury, donc c'est la même maquette parce que c'est la même maison d'édition. Donc, c'est une illustration différente, mais ça ressemble beaucoup à ce livre-là. Et cette fois-ci, ça vient parler très rapidement, parce que ce n'est pas le but de la rencontre. Ça parle de maison hantée. Donc, si jamais vous aimez les fantômes, À la maison est une histoire de fantômes qui s'inspire beaucoup, par exemple, d'Edgar Allan Poe et de ce genre fantastique-là. Donc voilà.
Moi, j'avais une question pour Marie Mongez. Quel est le sujet et le titre de votre prochain roman ?
Il faut me soudoyer pour ça, moi je ne dirai rien. Non, en fait, tout ce que je peux dire, c'est que c'est en août et que ça, ce ne sera pas du tout sur le même sujet. Et voilà. Non, mais ce n'est pas du tout par manque de volonté, mais c'est juste que je suis un petit peu protectionniste avec mes livres et que je n'aime pas en parler tant que ce n'est pas fini, comme c'était un petit peu un petit embryon tout fragile et que si j'en parle, eh ben, ça va être dangereux pour lui, donc je préfère ne rien en dire. Mais voilà, juste ce sera, je pense, sur une thématique très différente, c'est tout.
Alors une petite question aussi pour Myriam. Le fait que ce soit écrit un peu avec tous les cliffhangers à chaque fois avec les questions, et là dans le prochain épisode vous verrez où ça va, est-ce qu'on peut s'attendre à une série, une adaptation, ou c'est seulement un clin d'œil effectivement à la série, ou comme fonctionnaient les anciens feuilletons tout simplement?
Oui, mais c'était un clin d'œil à la série en fait et au feuilleton duquel s'inspire le comics, donc qui reprend là, cette formule de cliffhanger à la fin pour donner le goût d'acheter le prochain numéro. Toujours, donc c'était vraiment un clin d'œil. Par contre, c'est sûr que moi j'aimerais beaucoup travailler sur une adaptation. Je pense que je me suis fait dire par plusieurs personnes au Québec en tout cas que ça serait intéressant à adapter en série, que ça s'y prêterait bien puisque c'est quand même visuel hein, comme écriture. Donc,
et violent en plus.
Oui, donc oui. et donc moi non plus, je voudrais pas trop en parler, mais j'essaie très fort. C'est pas facile, mais j'essaie très fort. J'aimerais beaucoup.
Et pour une adaptation, ça serait...
Alors, pour l'instant, ce n'est pas au programme. Ou alors, il y a des choses que je ne sais pas. C'est possible aussi.
Est-ce que les thanatopracteurs, dans toutes les séries policières aujourd'hui, on les voit toujours, ou les médecins légistes,
ouais,
ou les...
Ouais.
C'est assez tendance, quand même.
Il y a un potentiel cinématographique.
Il y a un potentiel,
après, oui, il y a eu, en termes de séries, il y a eu Six Feet Under. Alors, on me fait toujours la référence, alors que je n'ai pas vu. Je suis désolée. Honte à moi. Mais tout le monde fait la référence. Et c'est vrai que le monde funéraire peut avoir un certain potentiel cinématographique. Voilà. Après... les odeurs, bah, typiquement le parfum de Suskin, je sais pas si certains d'entre vous ont vu le film, mais alors moi
pas
j'ai
terrible
détesté.
Du tout.
Ouais, parce que tout ce truc des odeurs, en fait, comment on le rend en.
Il faudrait de nouvelles technologies en fait pour diffuser des odeurs dans les salles
grave,
en même
un
temps.
Truc en, 4, en 5D, genre vraiment, ouais, une expérience immersive, je sais pas. Ouais. Parce que sinon, c'est vrai que ça rend pas grand chose.
Alors, y a-t-il d'autres questions dans le public? Levez la main, parce qu'on voit pas grand chose, nous, on a à peine à voir vos visages. Il y a quelqu'un ou pas?
Oui. Madame.
Non.
Madame.
Ah bah vas-y.
Quel a été l'élément déclencheur de l'écriture de votre roman?
À moi?
Oui.
Ok. Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure en fait sur je pense que c'était les vagues successives de dénonciation d'agression sexuelle et l'immobilité de la société là-dedans, ce qu'on en disait dans le discours public, donc à un moment donné il me semble qu'on parlait juste de ça presque là, c'était et donc ça m'habitait beaucoup et c'était aussi donc mon amour pour cette figure du justicier ou de la justicière comme on la retrouve dans les comics et ces questions très 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 intéressantes de dilemmes moraux que ça comporte. Et donc, je pense que ça faisait longtemps que je voulais écrire un livre avec une personnage de justicière. Et à un moment donné, tout s'est mélangé dans ma tête et j'ai décidé d'y aller pour l'angle des violences sexuelles particulièrement.
Du coup, j'ai une question. Parce que vous avez dit... parce que du coup, c'était ma question de base, mais on me l'a un peu volée. Pas grave. Mais du coup, vous aurez choisi... quelle fin pour Marilyn?
Ouais, c'est ça. Je veux pas le dire, en fait. Je pense qu'au début, je me forçais à essayer de trouver une réponse à cette question que beaucoup de gens me posent, puis je comprends. Là. Mais comme écrivaine, j'ai l'impression que donner une réponse, ça donnerait trop d'autorité à ma vision des choses. Alors que si j'ai laissé la fin ouverte, c'est parce que je pense qu'il n'y a pas juste une bonne réponse. Je pense que ça dépend des personnes et je veux vraiment que les lecteurs et les lectrices se positionnent. Et en fait, pour tout dire, quand j'ai commencé à écrire le roman, la fin m'est venue très rapidement, donc je savais que ça finirait comme ça avec une fin ouverte et qu'il y aurait un dilemme très très fort de qu'est-ce que je fais maintenant. Et j'ai pas pensé plus loin. Donc j'ai pas plus d'autorité que vous en fait pour dire qu'est-ce que je pense qui arrive parce que je l'ai pas réfléchi alors que j'écrivais le texte. Donc pour moi, ma réponse d'aujourd'hui est en dehors du roman. Voilà.
Ah, encore une petite question là-bas.
Bonjour. Donc c'est pour vous deux. Quel élève de troisième étiez-vous?
Ça, c'est la question subsidiaire.
Troisième, c'est 14 ans. Hein?
Ouais, 14 ans.
OK, parfait. Donc, c'est genre secondaire 3 pour nous. À 14 ans, je pense que je commençais à m'ouvrir un peu. Là. Je pense que j'étais très timide plus jeune. Et à 14 ans, je commençais à me connaître plus, à avoir des intérêts plus variés. Mes parents commençaient à me laisser aller voir des concerts avec des amis. J'avais un peu plus de liberté. Donc, je pense que j'étais en train de découvrir un peu ma personnalité, mes intérêts plus particuliers. J'étais très intéressée par tout ce qui était art, donc la musique, les livres, les films, et donc j'avais des amis avec qui je pouvais partager tout ça. J'étais très studieuse aussi, c'est assez cliché hein, d'être une écrivaine et d'être bonne élève, mais j'aimais assez l'école, j'aime toujours ça d'ailleurs, et donc ouais, c'est à peu près ça je pense.
Alors moi je sais pas si j'ai été très studieuse, alors que pourtant j'ai fait 10 ans d'études, hein, mais j'ai pas le souvenir d'une période super exaltante. ouais, quand 14 ans. Moi, j'ai surtout l'impression que c'était, dans mon cas, c'était plutôt un âge de merde. Je suis désolée, hein, mais après, ça ira mieux. Hein, mais ouais, 14. En troisième, je sais pas, une année très. Si, j'ai fait des. Parce que d'habitude, j'aimais pas les lectures scolaires. À partir du moment où c'était obligatoire, ça me saoulait. Mais je me souviens qu'en troisième, j'ai lu vraiment plein de trucs trop bien. Qui m'ont beaucoup marqué, Le joueur d'échecs de Stefan Zweig, des lectures scolaires qu'en fait j'ai vraiment aimé, donc voilà, parce que j'avais une super prof cette année-là, mais à part ça, c'était un âge un peu bâtard, ouais, je suis pas sûre d'avoir été une personne très intéressante à 14 ans, je sais pas si ça a changé, mais.
Attends, il y a déjà une question là, parce qu'il va falloir bientôt qu'on arrête. Il y a une question là, d'être devenue une lecture scolaire.
Ah bah du coup, très bonne question. J'espère que le livre n'a pas été aussi chiant que ne l'ont été certaines lectures scolaires pour moi. C'est tout ce que j'espère. Mais après voilà, dans la mesure où moi il y a quand même certaines lectures scolaires qui m'ont énormément marqué mine de rien. Voilà, je me dis que si certains d'entre vous ça a pu vous plaire, c'est un énorme truc pour moi. Donc voilà.
Donc on dit une dernière question.
Une dernière question.
Du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être auteur ?
Moi, je pense que c'est simplement j'avais un amour de la lecture très très jeune, donc ça m'impressionnait beaucoup les écrivains en général. J'aimais les histoires, je trouvais que c'était une façon de s'évader et aussi de découvrir des réalités qui n'étaient pas la mienne. Donc, je trouvais que c'était le meilleur moyen de plonger vraiment dans des intériorités autres, de découvrir d'autres pays, d'autres cultures, d'autres réalités. Donc, ça m'intéressait beaucoup et je lis beaucoup depuis que je suis assez jeune. Donc voilà, c'était comme c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire en fait. Alors je suis très contente d'y être arrivée.
Ouais, mais pour le coup, c'est vraiment la même chose. Je pense que ça part d'un goût pour la lecture. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'aimais pas les lectures scolaires, par principe, parce que la lecture, c'était un espace d'évasion pour moi, justement, en dehors de tout. C'était vraiment mon espace et ma bulle, et voilà. Et je pense que, ouais, ça démarre par un amour de la lecture. Et on est tellement transportés dans d'autres univers, dans d'autres mondes. En fait, on vit des vies parallèles. Et je me suis dit, à un moment donné, si moi, je peux essayer de faire ça, ce serait trop dingue, parce que je trouve que c'est un truc de fou. Et donc, on commence à imiter les auteurs qu'on aime. Et puis, en fait, ça commence un peu comme ça et je pense qu'effectivement ça démarre par une expérience de lecteur en fait, vraiment.
Donc lisez et écrivez et relisez. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour la qualité de vos questions.
Merci beaucoup.
Adjoints, là. Merci aux auteurs, bien sûr. Et merci à leurs profs.